Je vais juste dire quelques mots de présentation. Donc, Mauro Natale, de nous avoir rejoints ce soir pour cette série de grandes conférences organisées par le département des arts. Donc, je rappellerai que Mauro Natale est professeur honoraire aujourd'hui de l'Université de Genève, où il a enseigné l'histoire de l'art de la même moderne. Il a accompli des études en Italie, à Florence, mais également à Genève, et il doit une grande partie de sa formation à Federico Zeri, qui est un des grands historiens d'art mythique. Ça a dû être une période vraiment tout à fait extraordinaire de pouvoir se former auprès de cette spécialité. Mauro n'est pas seulement un homme de l'université de recherche, c'est aussi un ami des musées. Il a collaboré avec de très nombreux musées européens. Et il est l'auteur de la nouvelle présentation de la Pinacothèque du château des Sforza à Milan. Et avec Alexandro Morandotti, il a été responsable de la restauration, de la réouverture de la galerie des tableaux anciens du palais Borromée. Dont paraît aujourd'hui, c'est ça le titre de le catalogue, qui sera présenté très prochainement officiellement.
Voilà.
Et puis Mauro Natale a exercé de très nombreux commissariats d'exposition. Et on se souvient aussi d'une grande exposition Raphaël qui avait été organisée à Madrid. Merci.
Ben, merci. Sylvie, pour cette présentation, merci à l'école normale de m'accueillir. Je suis venu très volontiers pour parler un peu de, non pas de l'histoire de l'art en général, mais d'une manière possible d'approcher ce domaine. Comme vous savez, l'histoire de l'art est une discipline récente. Elle naît pratiquement à la fin du XVIIIe siècle grâce à l'ouvrage fondateur est dû non pas à un historien de l'art traditionnel, mais plutôt à un archéologue, de Joachim Winckelmann, qui, dans son Histoire de l'art de l'Antiquité, a véritablement posé les fondements d'une méthode historiographique basée non pas sur l'érudition littéraire, sur la reprise de disons d'idées préconçues ou prédéterminées, mais en très grande partie sur à partir de l'observation des objets. Donc un rappel à la matérialité des œuvres qui était tout à fait inédite jusqu'alors et qui fut adoptée par celui qui pour l'Italie est en très grande partie, du point de vue de la méthode, pour l'ensemble des pays européens, a été le véritable fondateur de l'histoire de l'art moderne, à savoir l'abbé Luigi Lanzi, L-A-N-Z-I. Un homme qui, pour la première fois, parcourt l'Italie pour en évoquer les différentes phases de l'évolution artistique, et qui découvre une géographie qui est totalement différente de celle acquise grâce à la tradition de Giorgio Vasari, c'est-à-dire grâce à cette tradition historiographique fondée au XVIe siècle qui voyait dans certains centres, notamment Florence et Rome, les seuls pôles d'attraction, les seuls pôles de production artistique. Or, dans l'ouvrage de Luigi Lanzi, qui est édité pour la première fois en 1795-96 et qui connaîtra par la suite un nombre considérable d'éditions et même une traduction française en 1817. C'est une Italie, c'est une péninsule des communes et des cours qui se dessinent, non pas une Italie résumé, simplifié à des grands centres majeurs de production, mais un territoire dans lequel sont réhabilités certains centres tout à fait jusqu'alors considérés comme secondaires. Donc un territoire polycentrique dans lequel justement la géographie fragmente dans une série d'écoles qui correspondent à des centres de production jusqu'alors ignorés. C'est dans les fondements de cette histoire et dans le titre même de cet ouvrage, Storia, pittorica della Italia, l'histoire de la peinture en Italie, pourrait-on traduire de façon un peu vulgaire en langage contemporain, le paradoxe qui va caractériser toute, pourrais-je dire, en simplifiant, toute l'histoire de l'art du XIXe siècle, à savoir une volonté de retrouver dans la différence des manifestations une unité linguistique qui caractérise un territoire déterminé, dans le cas spécifique celui de la péninsule, mais ça sera quelques années plus tard l'équivalent pour l'Hexagone ou pour la péninsule ibérique, et en même temps la reconnaissance que cette unité est en réalité segmentée en une série de centres de différence, disons de spécularité, de particularité tout à fait régionale. C'est cette tendance donc entre ces deux pôles qui caractérise l'évolution historiographique du XIXe siècle et qui aboutira au début du XXe siècle dans ce revival, dans cette affirmation nationaliste qui caractérise la redécouverte des fondements des écoles nationales. Cette redécouverte se fera grâce à des grandes expositions célèbres, de 1902, celle organisée à Bruges sur les primitifs flamands, 1904, celle organisée à Paris sur les primitifs français. Un nombre considérable de ces manifestations auront lieu dans pratiquement la première dizaine d'années du XXe siècle et revendiqueront soit des originalités nationales, soit des originalités communales valorisant dans cette quête d'une identité les différentes expressions. Après la Seconde Guerre mondiale, peut-être par opposition à l'isolement, à l'autarcie qui avait caractérisé les régimes précédents, ce déchirement des pays et de la culture européenne, c'est un mouvement inverse qui se dessine et qui remet en marche une enquête sur les centres régionaux qui repropose une enquête territoriale tout à fait détaillée, surtout dans les pays dans lesquels les différences régionales correspondent à des différences linguistiques, à des différences culturelles. C'est moins le cas pour la France. La France est partagée, comme vous le savez, connaît naturellement une identité nationale très tôt et sera partagée en régions de manière moins accentuée que d'autres pays européens comme l'Espagne ou encore l'Italie, qui ne connaîtra l'unité que dans le courant du XIXe siècle. Et cette enquête les différences culturelles du territoire intégrées dans un cadre naturellement national dessine une géographie qui n'est plus celle de Luigi Lanzi, celle fragmentaire, une sorte de mosaïque, mais qui est celle plutôt de relations entre les différents centres, d'échanges, de rapports. Eh bien, même cette phase connaît une sorte d'essoufflement. Et aujourd'hui, on regarde davantage aux relations de plus ample extension, au réseau, justement, d'influence et des mutations qui représentent une force tout à fait remarquable de diffusion des idées et du langage, et la recherche, un certain type de recherche historique, naturellement, vise à comprendre comment ces relations ont pu s'établir même entre différentes zones très éloignées entre elles, entre centres apparemment séparés par des barrières linguistiques, par des obstacles géographiques considérables, et essaye de comprendre comment cette mouvance, en fait, ces différentes migrations se sont mises en place. C'est une opération qui, naturellement, est d'une très grande difficulté, parce qu'elle doit, pour ne pas être fantaisiste, pour ne pas satisfaire en quelque sorte notre goût de l'échange et du voyage, se fonder sur des données précises, des données naturellement historiques, mais également, en ce qui concerne l'histoire de l'art, des données spécifiques rattachées à l'identité des objets, c'est-à-dire reposer sur un déchiffrement, non pas arbitraire, mais particulièrement pénétrant des œuvres qui sont à l'origine de ce type d'enquête, qui suggère en fait la nécessité de ce décloisonnement du champ de recherche et qui donc doivent être interrogées avec un soin et un doigté tout à fait particulier. Vous savez qu'une bonne partie des compétences dans le domaine de l'histoire de l'art repose sur une capacité à reconnaître, à identifier l'écriture, la main, la tonalité culturelle des œuvres et des auteurs qui les ont réalisées. C'est une difficulté, c'est une sorte de, disons, d'exigence qui est en quelque sorte propre à notre discipline, parce que nous disposons de matériaux de très grande qualité, mais très souvent abandonnés ou totalement décontextualisés, abandonnés, je veux dire, du point de vue des paramètres historiques, qui ne portent souvent pas de signature, qui ne peuvent pas être rattachés à un nom ou à un milieu ou à une école, et cela que cette discipline désuète qui a connu au XIXe siècle un très grand essor et mais qui aujourd'hui est en quelque sorte un peu à l'abandon, que l'on définit avec un terme anglo-saxon de la connoisseurship, c'est-à-dire cette capacité et même cette prédilection de l'historien de l'art à identifier l'œuvre face auquel il est confronté, à l'identifier, à lui donner un nom, à la situer dans un contexte culturel vraisemblable, eh bien, cette discipline et cette habileté, cette exigence est très difficile à acquérir, se base inévitablement sur une sorte de contraignante de spécialisation, et cette enquête sur les migrations, sur les échanges, va justement à contresens de cette fiabilité des champs spécifiques de connaissances que chacun de nous a conquis d'une manière plus ou moins ordonnée, plus ou moins artisanale, et qui représente la qualité et en même temps la limite très pauvre, très limite, très très dérisoire des compétences individuelles. Il y a donc cette sorte de confrontation, cette sorte de paradoxe, encore une fois, qui est à l'origine de cette difficulté. Et je voudrais illustrer cette démarche par deux exemples qui appartiennent à des époques et à des moments différents, mais qui peut-être me permettront de vous expliquer, de vous faire percevoir à quoi je fais référence. Je ne sais pas si cette lumière pénalise, fait peut-être un peu trop, la qualité de l'image. D'autre part, je ne sais pas si j'arriverai à véritablement... voilà, je crois que c'est beaucoup mieux. Et si j'aurais besoin, si j'aurais besoin de lire mes notes, eh bien, je le ferai en allumant. Non, c'est pas nécessaire. Alors, voilà, je vous présente là une œuvre qui est conservée dans la Pinacothèque communale de Savone. Savone est une ville située dans l'arc occidental de la Ligurie, une ville donc dans la géographie italienne tout à fait périphérique, proche en quelque sorte de la frontière avec les territoires de la Provence, une ville qui au XVe siècle joue un rôle important du point de vue commercial, mais qui ne fait pas partie de des constellations des grandes cités de la Renaissance. Cette œuvre se trouve donc à la Pinacothèque locale. Elle vient d'un hôpital de la ville, hôpital de Saint-Paul, a donc été très vraisemblablement réalisé pour ce lieu. Et vous voyez que sur cette représentation de la crucifixion, qui est de dimension tout à fait considérable. Ce tableau mesure 2,30 m de hauteur. Il est réalisé sur un support en toile, ce qui n'est pas du tout habituel pour l'époque à laquelle on peut référer le tableau. Vous voyez que est représentée l'une des scènes les plus traditionnelles de l'iconographie chrétienne, à savoir la scène de la crucifixion. Le Christ sur la croix occupe une place considérable dans l'espace utile de cette image. À ses pieds, donc, Saint Jean sur la droite, la Vierge et Marie-Madeleine agenouillée à ses pieds, de l'autre côté, dans un environnement qui est surprenant d'un point de vue de sa grammaire, car vous voyez que il y a dans ce tableau lumineux une sorte de fracture entre ce premier plan et l'arrière-plan, un premier plan qui semble se référer à une manière de peindre les rochers tout à fait conventionnelle qui puise ses racines dans la grande tradition giottesque. C'est une sorte de volontaire archaïsme que utilise le peintre dans ce cas, et tandis que à l'arrière-plan se déploie un paysage au caractère naturaliste très accentué. On distingue même à la hauteur de l'épaule de Saint Jean la subdivision et les cultures dans les champs, et à l'extrémité de ce paysage se saisissent le profil des montagnes enneigées, c'est-à-dire portraiturées avec un sens de l'observation météorologique, de l'observation naturaliste tout à fait surprenante. Il y a donc comme deux registres d'expression dans cette peinture, et ce premier plan si volontairement archaïque rappelle bien entendu ce que dans les années 40 à Florence Beato Angelico était en train de réaliser, surtout pour les différentes cellules du couvent dont il était lui-même moine, le couvent de Saint-Marc à Florence. Vous voyez là une peinture murale qui représente la même scène vue dans la peinture précédente. Change bien entendu les saints qui sont représentés, avec une insistance particulière pour l'ordre dominicain auquel appartenait le couvent et le moine et le peintre lui-même, ici, indiqué par la présence de Saint-Pierre le martyr, qui est placé à l'extrémité droite de la composition, mais vous voyez que dans cette composition, la croix est plantée sur un Golgotha simplifié, volontairement archaïque, lui aussi représenté avec une sorte de rocher, de grands cailloux cassés, qui renvoie bien entendu à l'antiquité de la tradition de la représentation de la nature, et notamment à la source moderne de cette représentation, qu'est la peinture de Giotto, regardez un siècle plus tard, car nous sommes ici autour de 1440, regardez donc plus qu'un siècle plus tard, comme la matrice non seulement de la modernité, mais surtout de cette modernité dévote, de cette modernité, sans entrave culturelle que recherche le peintre dominicain dans cette production. Or, dans la crucifixion de Savone, le peintre semble faire référence à des modèles analogues. Il a même, vous le voyez, dans ses tonalités pastel, cette gamme chromatique éclaircie et réduite au maximum. Vous voyez que les plages chromatiques sont très larges, très nettement définies, et que le fond, au fait, n'est que une variation de tonalité grisâtre, de façon à poursuivre cette sorte de simplification du langage qui est à l'origine de ce primitivisme, de cette volonté de sélection qui caractérise un certain type de peinture en Italie au début du XVe siècle. Il y a toutefois dans l'expressivité très affirmée des gestes et des expressions des anges placés autour de la croix. Et dans cette manière de façonner les drapés très percutants, très nettement, du point de vue optique, définis des figures, une manière qui est étrangère à ce langage propre à la peinture florentine du début du XVe siècle, et qui caractérise par contre plutôt la peinture flamande de ce même début du siècle. Il y a une autre particularité dans la crucifixion que je vous ai montrée. Je voudrais retourner en arrière, mais je vois que l'appareil réagit de manière très lente à mes impulsions. Vous me pardonnerez un peu cette confusion. Voilà. Un autre aspect sur lequel je voulais vous attirer votre attention est l'organisation des plans de profondeur du paysage. Non pas une continuité dans la perspective aérienne, mais plutôt une définition de la profondeur par hachure, par plan nettement séparé. Vous voyez que le premier plan s'achève derrière les figures, et que au-delà, c'est donc une sorte d'interruption, une sorte de précipice, et recommence à une autre plage de profondeur. Et le même procédé est utilisé à l'arrière-plan. Voyons maintenant d'où vient cette manière de concevoir le paysage, eh bien, vient de cette expérience flamande, des inventions élaborées dans les Flandres par Jan van Eyck dans des années qui sont proches de 1430 et dont je vous montre ici un exemple succédané, c'est-à-dire une œuvre qui représente bien entendu la crucifixion, qui est conservée à Venise, au musée de la Cadoro, et qui est habituellement reconnue comme une œuvre sortie de l'atelier de Jan van Eyck, reproduisant une invention dont on n'a jamais reconstitué le prototype, dont on n'a jamais véritablement identifié le prototype. Et vous voyez que ici, le paysage est conçu d'une manière tout à fait analogue, malgré l'environnement soit bien entendu très différent. Vous voyez que ici, au pied de la croix, la perception du premier plan est déterminée par une sorte de vue plongeante, comme dans le tableau précédent. Ce premier plan s'interrompt de manière très brusque et très brusque par cette limite, ici accentuée par des personnages dont on entrevoit seulement la partie supérieure du buste pour justement signaler cette césure qui sépare le premier plan du plan successif. Et vous voyez que à l'arrière-plan, à nouveau, ces montagnes dessinées avec une attention particulière à la vraisemblance géographique rappelle celle que nous avons vue tout à l'heure. Je vous propose ici une confrontation qui souligne, qui permet au fait de mettre en évidence la familiarité qui existe entre cette stupéfiante toile de Savone et les grands prototypes de la peinture flamande du début du XVe siècle, à savoir le fameux retable de l'agneau mystique peint par Hubert et Jan van Eyck entre 1426 et 1432, dont je vous montre là deux éléments, des panneaux extérieurs, c'est-à-dire des panneaux que l'on peut observer lorsque le retable est fermé, avec la représentation de Saint Jean l'Évangéliste qui introduit la donatrice de l'ensemble du retable qui est conservé dans l'église de Saint-Bavon à Gand. Eh bien, si vous confrontez le Saint Jean Évangéliste avec la figure analogue sur la toile de Savone, vous voyez que non pas il y a des identités, mais des similitudes dans l'attention de la représentation, cette sorte de classicisme, de classicisme atténué, cette sorte de disons affection dans dans le rendu de la figure et des drapés, et en même temps cette définition optique dans laquelle la lumière joue un rôle tout à fait déterminant, qui fait supposer que le peintre qui a réalisé la crucifixion de Savone était au courant de ce qui se passait dans les Flandres, soit de manière directe pour avoir accompli un voyage dans les pays du Nord, soit de manière indirecte pour avoir connu des œuvres importées dans les pays méridionaux, mais provenant des Pays-Bas. Et d'ailleurs, cette impression est confirmée par ce particulier encadrement qui donne un relief tout à fait spécifique à la représentation. Un encadrement, vous le voyez, peint sur la toile, qui simule la tridimensionnalité. C'est un véritable trompe-l'œil réalisé avec une sobriété de moyens et avec une efficacité optique tout à fait remarquable, dans lequel, à l'intérieur duquel cadre, j'entends bien, court une inscription qui est une prière donc d'invocation et qui est en rapport avec la représentation proprement dite. Une invention totalement étrangère aux pratiques de la peinture italienne de la première moitié du XVe siècle, car ici nous sommes effectivement dans ce cadre chronologique. Je m'abstiens de préciser davantage pour quelles raisons en fait la collocation doit être située dans cette zone chronologique. Cela nous amènerait trop loin. Mais je veux tout simplement souligner la source, encore une fois, septentrionale de cette idée de peindre en trempe-l'œil un cadre autour d'images religieuses et d'utiliser ce cadre pour placer des inscriptions. Celles-ci représentées également de manière trompeuse, optiquement très efficace, comme c'est le cas pour ce célèbre triptyque qui représente la Vierge et l'Enfant avec Saint Michel présentant un donateur et Sainte Catherine d'Alexandrie, qui est conservé à la Gemälde Galerie de Dresde et qui est une œuvre majeure de Jan van Eyck, qui la signe et la date de l'année 1437. La confrontation entre la toile de Savone et ce petit triptyque, celui-ci étant de dimension tout à fait modeste, n'est pas seulement sollicité par cette analogie d'un élément, disons, figuré, qu'est celui lié à la représentation de cette longue inscription qui encadre les trois scènes, mais aussi par le fait que le donateur est donc présenté par Saint Michel, est Michele Giustiniani, c'est-à-dire un membre de l'une des grandes familles génoises commerçantes du début du XVe siècle, qui avait un siège bancaire important à Bruges, et donc qui établit un lien direct entre les Pays-Bas, entre la source, si vous voulez, de cette culture visuelle flamande liée au nom de Jan van Eyck et la ville de Gênes. Une ville qui est placée, donc qui est au centre de cet arc de la Ligurie, traditionnelle concurrente commerciale de la ville de Savone, qu'elle annexera au début du XVIe siècle, et donc, mais qui est en quelque sorte un partenaire culturel de cette histoire tout à fait importante. Gênes est dans les relations nord-sud au XVe siècle un centre incontournable en raison des relations commerciales, mais aussi en raison de cette attestée présence et précoce présence d'œuvres flamandes importé donc déjà au début du XVe siècle, déjà dans la première moitié du XVe siècle. Et ce n'est pas un hasard si le premier biographe, le plus ancien biographe et le plus, en quelque sorte, fidèle dans la description des œuvres, des peintres fondateurs de la grande tradition flamande, c'est-à-dire de Jan van Eyck et de Roger van der Weyden, est un humaniste d'origine génoise. Il s'appelle Bartholomé Facius, Bartolomeo Facio, et qui, donc, comme tous les humanistes, parcourt les différentes cours de l'Italie, qui se trouve à partir de 1445 environ à la cour d'Alphonse d'Aragon à Naples, où rédige, autour de 1456, une collection de biographies d'hommes illustres, De viris illustribus, un genre, comme vous le savez, tout à fait à la mode et qui en même temps puise ses racines, et c'est pour ça qu'il est à la mode, dans la tradition classique. C'est pour ça qu'il est à la mode au début du XVe siècle. Eh bien, l'originalité de cet ouvrage est que Bartolomé Facius consacre une section de ses biographies d'hommes illustres, dans lesquelles apparaissent des ecclésiastiques, des hommes d'armes, hommes politiques, monarques, et ainsi de suite, aux artistes. Et dans le secteur très restreint des artistes, deux peintres desquels il décrit la biographie sont italiens. Il s'agit de Gentile da Fabriano et Pisanello, c'est-à-dire les grands représentants du gothique international, ou plutôt de la transition entre le gothique international et la renaissance naturaliste, une renaissance, disons, différente de cette sorte d'intégralisme géométrique et philo-romain qui se développe à Florence avec Masaccio et Donatello. Et donc, deux sont italiens et deux autres sont des artistes flamands, dont Bartolomé Facius, donc Jan van Eyck et Roger van der Weyden, connaît les œuvres parce qu'il les a vues dans les villes qu'il a fréquentées ou dans les cours qu'il a, dans lesquelles il a exercé son activité d'homme de lettres. Et justement, plusieurs peintures sont décrites comme étant conservées à Gênes. Il y a donc dans cette crucifixion de ce tableau de Savone une sorte de affinité très forte avec la peinture flamande, et même la signature qui apparaît au pied de Saint Jean, inscrite sur le phylactère, est un hommage à une tradition qui, elle, ne comporte pratiquement pas d'exemple en Italie à cette époque, mais qui est par contre, qui deviendra par contre l'un des éléments caractéristiques de, des peintres flamands pour marquer leur identité dans leur production. Ce petit bout de papier simulé au pied de Saint Jean porte donc le nom du peintre qui est, je lis le texte latin, Donatus Comes Bardi Pinx, Comes Bardi Papiensis Pinxit hoc opus, c'est-à-dire donc Donato Comte, il s'agit donc d'un gentilhomme, d'un noble, Comte de Bardi, originaire de Pavie, a peint cette œuvre. Il s'agit donc non pas d'un peintre amateur, mais d'un peintre, d'un aristocrate qui est attesté dans les documents lombards et surtout génois à partir de 1426 jusqu'à 1450 environ, dont on ignorait pratiquement tout sauf cette œuvre, la seule qui soit signée d'une manière tout à fait explicite, et que, dont on doit la restitution à une enquête, disons, philologique totalement magistrale de Federico Zeri, dont Sylvie rappelait tout à l'heure le rôle qu'il a eu dans la redécouverte d'un nombre considérable de peintres et d'œuvres dans les années entre 1950 et 1981 environ. Or, Donato de Bardi est un artiste, comme je vous le disais, dont on connaît quelques attestations documentaires, qui a travaillé pour l'essentiel à Gênes et à Savone, donc loin de du territoire dont il était originaire, et qui a été donc et dont le catalogue très maigre a été reconstitué par Zeri en groupant des œuvres qui passaient sous des noms et sous des attributions différentes. Le numéro le plus ancien de son catalogue est ce petit triptyque qui est conservé au Metropolitan Museum à New York, lui aussi signé Opus Donati, au premier plan, ici au pied de la Vierge, mais dont la signature avait été interprétée comme étant celle d'un peintre vénitien du début du XVe siècle, Donato Bragadin. Or, Zeri, grâce à une lecture stylistique tout à fait brillante, reconduit cette œuvre à un milieu totalement différent de celui de Venise du début du XVe siècle. Vous remarquerez déjà que le format du petit triptyque, car il s'agit d'une œuvre qui mesure environ 40 cm de hauteur, s'inscrit dans un rectangle, c'est-à-dire est un format simplifié, analogue à celui du triptyque de Jan van Eyck de Dresde, un format qui est totalement inhabituel pour les œuvres italiennes de cette époque, qui préfèrent une ornementation sculptée beaucoup plus riche, beaucoup plus foisonnante que ce dépouillement qui caractérise cet ouvrage. Et puis vous remarquerez également qu'il y a là aussi une sorte de hybridation stylistique entre sources différentes. Une insistance pour le langage élégant du gothique international dans cette redondance des plis, dans cette élongation un peu conventionnelle, mais d'une très grand raffinement des figures des saints, Philippe à gauche et Agnès à droite, mais qu'en même temps, au centre se trouve cette image de la Vierge de l'humilité, c'est-à-dire de la Vierge assise à même le sol, sur un coussin, non pas sur un trône, qui, dans une attitude très affectueuse, soutient et serre l'enfant dans ses bras, l'enfant assis donc sur l'un de ses genoux. Il y a là aussi plusieurs sources qu'il faut prendre en considération. J'ai mis en confrontation avec la figure de Sainte Agnès, une figure de saint, Saint Jean l'Évangéliste, d'un peintre vénitien, Jacopo Bellini, le fondateur de la grande dynastie des Bellini, le père de Giovanni et de Gentile, qui, autour de 1440, réalise un retable dont on connaît maintenant aujourd'hui quatre éléments partagés entre différents musées. Celui-ci est conservé à la Gemälde Galerie de Berlin et qui rappelle dans cette cadence, vous voyez, régulière de plis parallèles et dans cette recherche de l'élégance tout à fait remarquable, cette expérience dans la figure féminine. Ce qui veut dire que Donato de Bardi, à ses débuts, s'est formé dans un milieu ouvert hein, ou en contact avec une déclinaison septentrionale du gothique international, une déclinaison dans laquelle interviennent des artistes ou qui est en contact avec la culture vénitienne à Venise ou alors dans la cour des Visconti qui abrite à Pavie notamment au début du XVe siècle, Pavie, la ville dont il était originaire, dans la bibliothèque et à l'intérieur du château, une quantité de peintres de premier plan originaires non seulement de l'Italie, mais également provenant de la cour bourguignonne. Le numéro suivant du catalogue de Donato de Bardi est représenté par cette présentation du Christ au Temple, qui, vous le voyez, est un ouvrage lui aussi tout à fait surprenant, car on a ici retrouver le chemin d'une expressivité plus marquée, cette élégance effilée qui caractérisait le triptyque, qui caractérise le triptyque de New York, est lâchée, non pas complètement, mais à l'avantage d'une narration plus soutenue, et vous voyez que garde malgré tout son importance déterminante, la lumière dans la définition de l'espace, un espace perçu de manière tout à fait empirique, non pas selon les règles de la perspective géométrique, mais à travers une atténuation de l'impact de la lumière sur les surfaces et où une connotation régionale est très fortement marqué par cette alternance de pierres noires et blanches qui marque les intrados de l'architecture et donc qui sont une caractéristique de l'architecture de Ligurie du XIVe et du XVe siècle. Donc, une attache, en quelque sorte, encore une fois, à une région spécifique, marginale, de l'Italie dans ce début du XVe siècle. Ce tableau se trouve dans une collection privée, comme se trouvent dans une collection privée ces deux figures de saints qui proviennent d'un autre ensemble, l'un représentant Saint-Ambroise, l'autre représentant Saint-Étienne. Deux chefs-d'œuvre, vous le voyez, dans la sobriété des attributs et en même temps dans ce niveau de réalisation technique tout à fait exceptionnel qui est peut-être plus facilement appréciable grâce à ces quelques photos de détails dans lesquelles le peintre, toujours Donato de Bardi, nous sommes ici dans une phase proche de celle de la crucifixion, c'est-à-dire autour de 1440-1450, car 1451, le peintre est déjà mort, est donc marqué par cette définition optique, notamment des détails vestimentaires, comme c'est le cas de la mitre du Saint-Évêque, ou encore comme vous pouvez le voir sur dans ces motifs, donc sur la dalmatique de Saint-Étienne, ces motifs à ramage qui sont réalisés avec une maîtrise technique et une continuité, je dirais, d'application du pigment pictural qui véritablement rapproche ces peintures incontestablement italiennes dans leur dépouillement et, je dirais, presque dans la franchise de la présence de leurs personnages, mais indiscutablement également proche de la peinture flamande, ce qui concerne la réalisation, leur traduction picturale. Où est-ce que cette incroyable ouverture, cette incroyable rencontre entre la peinture du Nord et ce qu'il y a de plus moderne, de plus d'avant-garde, soit du point de vue de la figuration que du point de vue de la technique. Et ce qui vient du sud, et notamment de Florence, où est-ce que cette rencontre se réalise? Où travaille Donato de Bardi? Eh bien, il travaille dans une région, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas connue pour être l'un des centres de foisonnement artistique, et où, dans ces mêmes années, autour de 1430-1440, c'est encore des productions de ce type qui sollicitent les amateurs, les collectionneurs. Vous voyez ici un retable, un devant d'hôtel, un retable qui représente la Vierge et l'Enfant entourée par quatre saints, notamment à partir de la gauche, Saint-Antoine Abbé, Saint-Jacques, Sainte-Catherine d'Alexandrie et le bienheureux Pierre de Luxembourg, c'est-à-dire une figure dont la dévotion rappelle immédiatement la ville d'Avignon, car c'est là que se diffuse, à partir du début du XVe siècle, le culte de ce personnage, de ce noble appartenant à la famille donc impériale, qui connaîtra un succès assez limité dans le temps et avec une diffusion géographique bien déterminée. Eh bien, cette peinture mixe en quelque sorte les prototypes siennois du XIVe siècle, la tradition avignonnaise de la peinture du siècle précédent, à savoir de Simone Martini et de Matteo Giovannetti, les grands peintres qui travaillent pour les palais des papes à Avignon, vulgarisés, simplifiés et en même temps pérennisés en quelque sorte dans un schéma expressif très figé dans le temps. En fait, je vous montre cet exemple. C'est un exemple naturellement un peu, comment pourrais-je dire, non pas forcé, mais qui illustre bien que la région dans laquelle se produisent cette merveilleuse rencontre entre ces deux cultures dans la personnalité de Donato de Bardi est en même temps une région dans laquelle la tradition reste considérablement ancrée, et c'est probablement en raison d'une absence d'une culture visuelle forte, déterminée, avec un développement considérable, que ce langage peut former, peut être, peut s'exprimer, car la résistance à une hybridation de ce type est très faible, en raison justement de la marginalité culturelle de la région dans laquelle ce phénomène se produit. Ce n'est pas un hasard si Florence, par exemple, qui a une tradition bien plus enracinée, connaîtra la peinture flamande et ses effets une trentaine d'années plus tard que le phénomène que je vous ai illustré. Malgré cela puisse paraître tout à fait invraisemblable, c'est donc une sorte de floraison merveilleuse et inattendue dans une région dépourvu de contexte. J'exagère naturellement, mais je simplifie pour souligner l'importance de l'enquête sur ces situations périphériques qui parfois donc peuvent accueillir, en raison justement de leur faiblesse du tissu préexistant, des phénomènes d'une étonnante modernité. Le contrepoids à cette disponibilité est bien entendu que ces phénomènes restent isolés, non pas véritablement de suite. Et Donato De Bardi est une sorte d'étoile, non pas isolée, mais sans véritablement une descendance directe. Je vous montre là la seule filiation que a connue ce langage dans la région, en vous montrant deux fragments provenant d'ensembles différents et dus à des mains différentes. Le Saint Jean-Baptiste, qui est ici représenté sur la gauche, est un fragment du même retable auquel appartiennent les deux saints, Saint-Ambroise et Saint-Étienne, à figure entière, que je vous ai montré tout à l'heure. Ce fragment est conservé à la Pinacothèque de Brera, et le fragment de la figure de Saint-Pierre, sur la droite, appartient à un peintre originaire de Brescia qui s'appelle Vincenzo Foppa, c'est-à-dire un artiste de la génération suivante qui est le véritable seul héritier de cette tradition. Et je vous montre là une série de saints de Vincenzo Foppa conservée en partie dans une collection privée et en partie au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, pour signaler de quelle manière cette transmission s'opère. C'est la seule véritable transmission de ce phénomène isolé que représente Donato De Bardi, cette sorte de liaison entre le nord et le sud dans un contexte isolé et défavorable, qu'est celui donc de la Ligurie, d'une région périphérique au début du XVe siècle. J'ai abordé ce sujet parce qu'il nous permet au fait d'évoquer une question qui est fondamentale pour la culture visuelle du XVe siècle, à savoir le problème de la langue. Dans toutes les régions méridionales de l'Europe, qu'il s'agisse de la France, de l'Espagne ou de l'Italie, l'évolution du langage artistique est en quelque sorte, ou des langages artistiques, est en quelque sorte tendue entre deux pôles d'attraction ou de référence essentielle. D'une part, la tentation ou la volonté, la nécessité de créer un langage capable de communiquer de manière unitaire, de manière simple, sans tomber dans les particularités vernaculaires, sans céder au dialecte et aux cadences vulgaires de la formulation, et d'autre part, la volonté de sauvegarder des spécificités locales qui participent à l'identité des communautés, des cours, des villes dans lesquelles la culture visuelle se manifeste. C'est véritablement cette duplicité, cette sorte de tension qui, avec des forces et des équilibres différents, caractérise l'histoire, marque l'histoire de la peinture occidentale pendant tout l'arc du XVe siècle. Et au fait, ce problème de la langue aboutira au début du XVIe siècle, c'est-à-dire lorsque cette, disons, cette confrontation se résoudra à l'avantage définitif des langues nationales, sera donc formulé d'une manière très claire dans une série de textes, mais dont je voudrais rappeler ici celui de Niccolò Machiavelli, le théoricien politique que vous connaissez, qui a consacré au début du XVIe siècle, justement autour de 1514, un traité, qui a écrit un traité sur la question justement de la langue. Le discorso intorno alla nostra lingua, le discours autour de notre langue, qui est un discours sur la prétendue suprématie du toscan comme langue unificatrice pour la péninsule, le toscan comme commun moyen de communication pour les différentes régions, mais dont il marque l'utilité dans la mesure où la langue toscane peut assimiler, intégrer des apports étrangers. Eh bien, dans ce petit traité commence par reconnaître que les différences linguistiques et culturelles des régions italiennes sont telles que si on voulait accorder à chacune d'elles son importance, eh bien, on aurait une sorte de map dans laquelle la confusion et les subdivisions finiraient par avoir le dessus. Il y a donc une nécessité d'intervenir, de trouver un lien commun, une langue commune. Mais il faut que cette langue corresponde à la modernité, corresponde, ne soit pas fermée sur elle-même, mais corresponde justement aux mouvements, aux migrations, aux intégrations de cultures et de mots différentes. Et au fait, cette mutation de la langue qui est inévitable et qui est liée au fait que les personnes se déplacent, qu'elles s'établissent donc dans des lieux qui ne sont pas leurs lieux d'origine, mais qui sont des lieux d'accueil, j'utilise là des termes anachroniques, mais qui correspondent parfaitement à la pensée de Machiavel, interviennent dans la modification de la langue. Et ces langues deviennent, en raison justement de ces mouvements, d'une complexité accrue. Les lingue, dit-il, non possono essere semplici. On ne peut pas considérer que les langues ont une sorte de pureté propre, une simplicité propre. Ma conviene che siano miste con l'altra lingua. Mais il convient qu'au contraire, elles assimilent, qu'elles soient mélangées avec les autres langues. Et au fait, toutes les langues sont brutes, elles sont désagréables, elles sont moches, elles sont de mauvaises, elles dégagent une mauvaise impression. Celles non hanno del misto, si elles ne sont pas le résultat d'une connexion, d'un métissage, d'une intégration d'éléments différents. Il y a donc, vous le voyez, au début du XVIe siècle, une sorte de normalisation absolument inévitable, mais en même temps une normalisation dans laquelle se confrontent ou s'intègrent, dans les meilleurs des cas et dans les intelligences les plus ouvertes, comme c'est le cas de Machiavel, les particularités des différents lieux, des différents contextes qui participent à cette nouvelle unité. Auparavant, dans le courant du XVe siècle, pour garantir dans cette association de diversité une unité linguistique, les Italiens surtout avaient eu recours à cette univoque référence à l'Antiquité. L'Antiquité au XVe siècle représente véritablement le passe-partout, l'identité commune. L'Antiquité, donc inspectée à travers les textes, à travers la normalisation et la purification d'un latin qui s'était, à travers le Moyen-Âge, hybridé, vulgarisé, et dont on retrouve la pureté cicéronienne à travers le travail des humanistes, l'Antiquité qui devient également le lexique de la culture visuelle, les références à l'Antiquité, ne serait-ce que vous voyez ici, par exemple, dans ces figures de saints qui, pourtant, gardent ce caractère régional, rustre, lombard, septentrional, qui n'ont rien de l'élégance de la peinture toscane de cette même époque, mais qui cette Antiquité qui intervient même dans des images aussi volontairement naturalistes que celles-ci, dans cet élément architecturé à l'arrière-plan, ce parapet qui, vous le voyez, reproduit des éléments, un élément, disons, d'inspiration classique. C'est véritablement cette référence constante à l'Antiquité qui rappelle, en Italie, et je dirais exclusivement en Italie, dans le courant du XVe siècle, cette source de culture commune. Au début du XVIe siècle, cette exigence est désormais vaine, est désormais désuète, parce que les particularités régionales sont terriblement atténuées. Elles deviennent provinces, elles deviennent les marques d'un retard par rapport à ce que sera le langage unitaire imposé par le nouveau langage unitaire imposé par des artistes comme Raphaël, dont le naturalisme ou le classicisme naturel devient véritablement le langage unificateur en tout cas les deux siècles à venir. Un langage qui sera divulgué à travers non seulement les œuvres, la copie, la reproduction de ces œuvres, mais également à travers la gravure, et qui donc aura une réception très élargie dans la géographie européenne de la Renaissance tardive. Voici donc un exemple de cette transmission, de cette géographie mouvante qui identifie de manière instable, passagère, des lieux parfois périphériques dans lesquels s'exprime par un ensemble de circonstances qui peuvent paraître aujourd'hui tout à fait inexplicables, mais qui sont en réalité rattachées à toute une série de facteurs. Voici donc dans quelle mesure cette géographie pose ses jalons et dessine une carte extrêmement mobile dans le panorama de l'Europe.